Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Terre d'étincelles, votre rendez-vous scientifique du premier mardi du mois à 17h10. Une émission un peu terre à terre ce mois-ci, puisqu'il sera évidemment question de politique et du second tour des élections présidentielles, mais pas que. Des découvertes minérales et exoplanétaires sont aussi au programme. Deux exploratrices scientifiques sont au micro pour vous accompagner durant cette petite demi-heure. Vous les aurez reconnues, il s'agit de la pétillante Magali Volpes
et de la rayonnante Delphine Gomez.
Au sommaire donc, une plongée dans les profondeurs de notre sol terrestre, où se nichent des trésors de minéraux dont le plus précieux et le plus utilisé, le diamant. Puis nous irons à la découverte d'une planète située hors du système solaire, mais apparemment susceptible de pouvoir nous héberger. Ceci avant de revenir sur quelques-uns des aspects de la campagne présidentielle qui bat son plein. La revue de presse internationale, ensuite, donnera écho aux découvertes scientifiques les plus insolites, tandis que la chronique du mois, Le verre est dans la science, mettra à l'honneur Georges Perec et ses poèmes matriciels. Enfin, nous retrouverons Pedro Lima et ses Chronicas Latinas, où vaches transgéniques et énergie noire disputent la vedette à un accès internet en plein cœur de l'Amazonie. Terre d'étincelles, c'est parti! On démarre tout de suite avec les actualités, Magali.
Oui, alors il faut savoir qu'environ 30 à 40 nouveaux minerais sont découverts chaque année. Et ce mois-ci, un minéral de légende a été découvert et un nouveau minéral synthétique a été fabriqué. L'occasion pour Étincelle de plonger un moment dans les sciences de la Terre à la découverte de la fabrication des minéraux, et particulièrement des minéraux rares. La pierre précieuse la plus utilisée est le diamant en raison de son extrême dureté. Et oui, le diamant est le seul matériau qui ne peut être rayé que par lui-même. Dans l'industrie, on l'utilise donc par exemple pour couper le verre ou le graver, ou sur les outils pour percer, tronçonner, disquer, et cette fois-ci sous forme de particules. La dureté du diamant ne tient pas à sa composition chimique, il a la même que le graphite. Vous savez, le charbon de bois qui se dresse fièrement à la pointe de nos crayons, et qui lui est très friable. Eh bien, les deux composés ont exactement les mêmes atomes de carbone, rien de plus, rien de moins.
Alors Magali, quelle est l'astuce du diamant pour être si dur ?
Eh bien, les atomes, bien qu'identiques, sont disposés différemment. Voilà l'astuce. Pour le graphite, imaginez une structure en feuillet, comme un millefeuille. Donc chaque feuillet est solide, les atomes sont bien attachés entre eux, mais les feuillets ne sont pas très soudés. Du coup, le graphite est fragile, friable. Le diamant, lui, a une structure cubique. Chaque atome est lié à son voisin par ses quatre bras. Et oui, un atome de carbone a quatre bras. Et par une liaison de covalence, c'est-à-dire que chaque bras partage un électron. Et ces liaisons sont les plus solides du monde physico-chimique.
Et dans la Terre, qu'est-ce qui influe la création soit de graphite, soit de diamant ?
Bien, la différence, c'est que pour que le carbone cristallise en diamant plutôt qu'en graphite, il faut beaucoup plus d'énergie, beaucoup, beaucoup plus. Il ne va apparaître que si trois conditions sont réunies. D'abord, il faut une profondeur de départ de 150 km sous Terre pour la formation, et ceci pour avoir une pression de quelques dizaines de milliers d'atmosphères. Ensuite, il faut du magmatisme pour avoir une température de plus de 1000 degrés. Et enfin, une remontée rapide à la surface, sinon on aura du graphite à l'arrivée. Le diamant est donc rare, c'est pourquoi l'homme a voulu le copier.
Et j'imagine que tu t'es renseigné sur les procédés utilisés par l'homme pour la création de diamants synthétiques.
Exactement, on utilise la technique HPHT, haute pression, haute température, qui recrée en fait les conditions identiques à celles qui règnent à 150-250 km de profondeur et qui permettent la formation des cristaux de diamants naturels. Donc on utilise du graphite au départ, que l'on va porter à des températures de 1500 à 2700 degrés, et des pressions de plus de 70 000 atmosphères pendant plusieurs mois afin d'arriver à avoir des éclats de diamants.
Et on sait faire ça depuis combien de temps ?
Eh bien, on connaît cette technique depuis les années 50, donc elle est bien rodée. Et actuellement, les diamants synthétiques sont vendus à des prix de 10 à 50% inférieurs à ceux des diamants naturels. Mais ce qui reste cher pour l'industrie, évidemment. Et là, des chercheurs de l'Université de Californie ont obtenu un matériau dont la dureté rivalise avec celle du diamant et qui n'a pas besoin de très haute pression pour être fabriqué. Les chercheurs ont combiné un métal connu pour sa résistance, le rhénium, avec le bore dont les atomes forment facilement des liaisons covalentes fortes dont on a parlé précédemment. Donc obtenu à pression normale, le mélange a donné du diborite de rhénium aussi dur que le diamant.
Une nouvelle importante pour l'industrie donc. Mais en fait, tu nous parlais aussi en introduction de la découverte d'un minéral naturel cette fois-ci, mais pas que, il serait aussi de légende.
Et oui, alors est-ce que vous vous souvenez de la kryptonite, la pierre verte qui prive Superman de ses pouvoirs, qui est dérobée dans un musée par son ennemi juré Lex Luthor dans le film Le Retour de Superman en 2006? Eh bien, la pierre dans le film était rangée dans un coffre sur lequel sont inscrits les composants sodium, lithium, bore, silicate, hydroxyne et fluorine. On savait donc sa composition à l'avance. Eh bien, le docteur Chris Stanley l'a découvert, la vraie, un minerai qui contiendrait les mêmes éléments, excepté a priori la fluorine. Et donc, il n'a pas appelé la kryptonite, malheureusement, parce que le mot de krypton avait déjà été utilisé dans certaines lampes à incandescentes. Donc, il l'a baptisée jadarite, du nom de la région serbe où elle a été trouvée. La fameuse jadarite sera décrite en détail dans un prochain numéro de European Journal of Mineralogy. Et d'ici là, le public pourra l'observer le 15 mai au musée, cette fois-ci, d'histoire naturelle de Londres. Donc que Superman se tienne aux aguets, son pouvoir est peut-être en danger.
Tu sais, tant que l'intégrité de son col en bleu n'est pas mise en danger, je me fais aucun souci pour ce super-héros. Et en parlant de Superman, Magali, je te propose de faire un saut dans l'espace à quelques 240 trillions de kilomètres de notre bonne vieille planète bleue, pour rejoindre un sol moins familier, celui d'une nouvelle planète habitable. Découverte fin avril 2007, elle se situe à plus de 20 années-lumière de notre système solaire et partage avec la Terre des caractéristiques communes comme une trajectoire orbitale autour d'une étoile, un sol solide et rocheux qui pourrait même être recouvert d'un océan, une température de surface comprise entre 0 et 40 degrés, ce qui permet l'existence d'eau à l'état liquide et c'est ça la réelle nouveauté. Car qui dit présence d'eau, dit possible émergence d'une forme de vie. Or actuellement, mis à part la Terre, nous ne connaissons aucun autre astre céleste avec cette propriété. Bien sûr, il va sans dire que ces théories sont basées sur une vision humaine de l'humanité et de l'univers, selon laquelle la vie ne peut exister sans eau liquide. Certainement parce que notre propre genèse à nous est issue des profondeurs des océans terrestres. Mais revenons à un aspect plus pragmatique et laissez-moi vous présenter cette cousine de notre planète bleue, dont le nom de baptême n'a toujours pas été choisi. On doit sa découverte à une équipe franco-suisse-portugaise. La gravité à sa surface est 2,2 fois la nôtre et son rayon une fois et demi celui de la Terre. D'une masse 5 fois supérieure à celle de la Terre, elle réalise son orbite autour de son étoile en 13 jours. Pour une telle masse, les modèles physiques lui prédisent soit une constitution rocheuse, soit une surface couverte par un océan. Et sa découverte est un événement de taille puisque sur les 220 planètes situées hors du système solaire et déjà répertoriées, cette cousine de la Terre est l'une des rares telluriques à posséder des températures de surface similaires aux nôtres. Inutile donc de vous faire attendre, je vous entends déjà murmurer l'inévitable question, sera-t-il un jour possible d'habiter cette nouvelle planète ?
Évidemment.
Alors cela a de quoi faire rêver, bien sûr, nous aurions enfin une solution au problème de surpopulation et de surexploitation des ressources naturelles terrestres. Eh bien, on risque de vous décevoir, il est encore trop tôt, beaucoup trop tôt pour le dire. Car posséder des températures clémentes permettant à l'eau d'exister à l'état liquide, ne garantit pas le développement de la vie. Mars, par exemple, qui se situe dans notre système solaire, et qui se situe aussi aux frontières de la zone d'habitabilité, n'est guère hospitalière. Malgré un sol rocheux et des températures oscillant entre moins 120 et plus 25 degrés Celsius, nous n'avons toujours pas l'ombre d'une preuve concernant l'existence de Martiens. Pour la nouvelle exoplanète, la situation n'est pas non plus gagnée d'avance, surtout sachant qu'elle est 14 fois plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil. Le confort en surface pourrait donc y être menacé par la violence des éruptions de cette étoile, une naine rouge réputée colérique. Et puis il persiste un problème de taille à résoudre. Il s'agit tout simplement de la distance qui nous sépare de cet autre système solaire. 240 trillions de kilomètres, soit 600 millions de fois la distance Terre-Lune. Voilà de quoi nous occuper un bon bout de temps. Dis Magali, t'aurais pas le numéro de Superman ? Il paraît qu'il vole à la vitesse de la lumière.
Donc un petit point au sujet des présidentielles maintenant, et en ce qui concerne les sujets qui intéressent les sciences. Donc quelles sont les propositions de Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy en ce qui concerne le terme préoccupant de la recherche ? Eh bien les candidats répondent tous les deux par une augmentation assez généreuse du budget, mais par contre les avis divergent à propos de l'attribution de l'argent. Alors que Ségolène Royal prône une culture de connaissance et un budget par structure, Sarkozy, lui, est favorable à des subventions au projet pour promouvoir l'excellence scientifique et qui serait suivie de procédés d'évaluations exigeantes, précise-t-il. La recherche serait donc dans ce cas dépendante des priorités de l'État, Nicolas Sarkozy ayant un faible pour les biotechnologies. Autre point spécifique au projet de Ségolène Royal cette fois-ci, la simplification du système de recherche avec une diminution du nombre de structures existantes.
Et en ce qui concerne l'écologie, Magali ?
Bien, il y a un site internet, celui de l'Alliance pour la planète, qui est un regroupement d'associations et acteurs de la société civile et qui a effectué une notation de chaque partie. Alors, au début de la campagne, Royal était déjà au-dessus de la moyenne, à 13 sur 20. Elle est passée actuellement à 16 sur 20, en annonçant par exemple un plan Habitat-Énergie avec un objectif d'isolation des immeubles anciens et l'adoption de normes hautes et très hautes performances énergétiques pour les constructions neuves. Donc il y a bien sûr d'autres propositions, et notamment un moratoire contre les OGM, ce que ne propose pas Nicolas Sarkozy, qui lui est favorable à la poursuite des essais OGM en plein champ. Donc lui, globalement, a une note de 8,5 sur 20. Les défis énergétiques et climatiques ont contribué à donner une couleur plus écologique à son programme, mais s'il souhaite orienter la France vers des transports non polluants, il ne remet pas en question la place prépondérante donnée à la route et ne propose rien de fort pour les transports communs urbains, par exemple. Donc quant au crédit qu'on peut apporter aux promesses des deux parties quant au pacte écologique, je vous conseille d'aller sur la web TV qui se nomme Le Lab, que vous pourrez trouver à lelab.tv, où l'équipe dite des Yes Men ont piégé un représentant de chaque partie. Donc le suspense est entier, je vous laisse vraiment découvrir ça. La réaction de l'UMP peut nous faire présager que le pacte est plus une étiquette décorative pour appâter l'électorat plutôt qu'un réel engagement.
La revue de presse internationale, maintenant avec une information israélienne.
Oui, une info initiative, celle d'une jeune entreprise israélienne effectivement qui s'appelle Agvise et qui fabrique des cylindres de polymères peuplés de microbes pour purifier les eaux usées et qui est encore plus efficace que l'ancienne. Donc après être allée au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, Agvise se tourne dorénavant vers le marché européen, ce qui nous intéresse, car l'avantage de la méthode est de permettre aux clients de se mettre aux normes européennes sans avoir à doubler la taille de leurs installations existantes. Et comme 98% des stations d'épuration dans le monde utilisent des méthodes de traitement conventionnelles, la société Agvise a donc de beaux jours devant elle.
De mon côté, sans transition, j'ai trouvé une information qui provient d'Afrique du Sud, où la Southern African Sustainable Seafood Initiative, excusez mon anglais, a développé une alerte à l'éco-consommation d'un genre nouveau. Donc le système mis en place se nomme Fish MS, ce qui rappelle un petit peu le SMS, et permet aux Sud-Africains de savoir si durant leur course, ils achètent du poisson appartenant à une espèce menacée. Donc, comment ? Eh bien, via leur téléphone mobile, il leur suffit d'envoyer un SMS à cette entreprise-là avec le nom du poisson qu'ils comptent acheter, et l'information qu'ils reçoivent en retour leur permet de savoir en fait si le poisson qu'ils vont acheter appartient à une espèce en voie de disparition, auquel cas ils reçoivent un signal rouge, appartient à une espèce dont la pêche est autorisée mais dont les stocks sont en danger, auquel cas ils reçoivent une information orange, ou alors si tout simplement c'est OK pour l'achat et l'information qu'ils reçoivent c'est vert. Voilà, et je crois qu'en fait, sur le système du téléphone mobile, tu as trouvé un même principe au Japon.
C'est vrai, une autre information au Japon cette fois-ci, mais toujours par l'intermédiaire du téléphone portable. Mais là, c'est un système d'alerte anticipée au séisme qui va être mis à la disposition du grand public japonais en septembre 2007. Donc, comment ça se passe ? Eh bien, à partir d'une magnitude de 5 sur l'échelle japonaise Shindo, donc c'est une intensité à partir de laquelle on commence à avoir du mal à marcher dans la rue ou des objets peuvent tomber des étagères, qui correspond à, sur l'échelle de Richter à 5, 5 ou 6, eh bien un message d'alerte sera diffusé en un dixième de seconde vers les téléphones IP, les téléphones mobiles, la sécurité civile et les médias. Donc c'est un système qui permet de prévenir 10 à 40 secondes avant l'arrivée des premières secousses destructrices, donc ce qui permet entre autres par exemple de couper la distribution du gaz, d'arrêter les ascenseurs à l'étage le plus proche afin d'en sortir, d'arrêter les trains, les industries sensibles, etc. Ainsi, le système pourrait réduire de 82% le nombre de victimes des tremblements de terre majeurs, ce qui n'est pas négligeable, Delphine.
C'est énorme, exactement. Et pour finir, moi je connaissais la location de chef gastronomique, qui est un concept qui se répand de plus en plus en France. Et bien figure-toi que sur l'île de Singapour, c'est la location de chercheurs scientifiques qui est pratiquée. C'est une information relatée par le journal Straits Times, avec l'agence Astar qui propose aux entreprises de leur louer des scientifiques capable de développer des activités liées à l'innovation et la recherche et développement. Le gouvernement singapourien prend en charge 70% du salaire du chercheur, qui intègre l'entreprise pour 1 à 2 ans, et les droits de propriété intellectuelle générés par le scientifique appartiennent alors à la société hôte. Ce programme nommé T-Up rencontre de plus en plus de succès et dispose déjà d'un pool de 250 chercheurs, dont plusieurs ont déjà décidé de quitter leur laboratoire pour rejoindre définitivement leur entreprise. Voilà, avant de vous laisser en compagnie d'Adrienne Poli et son titre « L'amour avec un con », c'est la demoiselle qui a été nominée aux Victoires de la Musique 2007. Nous vous rappelons que samedi 19 mai aura lieu la Nuit des Musées, durant laquelle vous pourrez pousser leurs portes gratuitement et ainsi découvrir leur collection aussi riche que diverse.
J'ai fait l'amour avec un con, un homme, un con. J'ai fait l'amour avec un con, un con d'homme. Pourquoi j'ai dit oui, non, non, non? Pourquoi j'ai pas dit non? Oui, oui, oui. J'ai fait l'amour avec un. Parfois on se sent si seul, mais dans le fond tout le monde est seul. C'est pas con. J'ai fait l'amour sans un frisson. Incontestable. J'ai fait l'amour avec un con. Incontable. Pourquoi j'ai pas discuté? C'est pas un conte de fées. Pourquoi j'ai bu tous ces verres? Le contact n'était pas bon. Pourquoi j'ai pas mis mes verres? Le contact c'est trop con. Le compte en addition. Et puis les moutons. Le temps de me dire à quoi bon. Et mon compte était bon. Pourquoi j'ai pas poussé? Je sais plus, je sais pas. Comment tu t'appelles déjà? Je sais plus, je sais pas. J'étais bourrée inconséquente. J'étais condamnée inconsciente. J'ai fait l'amour à contre-cœur. Il m'a même pas embrassé. J'ai fait l'amour en regardant l'heure. Je suis con. J'ai fait l'amour avec un. Parfois on se sent si seul, mais dans le fond tout le monde est seul. C'est pas con. Comment tu t'appelles déjà? J'sais plus, j'sais pas. Ah, si j'étais plus concentré, déjà, j'ai plus, j'ai pas. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Surtout me rappelle pas, me rappelle pas.
Place maintenant à notre chronique Le verre est dans la science, où les mathématiques s'immiscent dans le domaine de la poésie. Une lubie de Georges Perec qui nous est présentée par Magali.
Un soir, le fatal tournis effleura ton sinus folâtre. Il troua en sifflant, rusé, oisif, l'outre nasal. Tour influent, soif, râle, le tarin soufflé sortit à nu. Voici un curieux poème de Georges Perec, grand spécialiste des jeux de lettres dans les années 70. Dans son recueil intitulé « Alphabet », les 176 textes ressemblent à celui-ci. Là où la plupart des écrivains jouent plutôt sur le registre de l'émotion et puisent dans leur sensibilité leur inspiration, Perec, lui, utilise ici le registre mathématique. Pourquoi et comment Perec est d'abord un mordu de littérature. Avec quelques amis, notamment l'écrivain et poète Raymond Queneau et le mathématicien François Lelionnais, il fait partie de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Dans les années 70, ses passionnés se réunissent régulièrement pour travailler sous contrainte. Et à ce jeu, Perec excelle. Un de ses romans les plus célèbres, La Disparition, en est d'ailleurs un exemple. Il a été rédigé sans la lettre E.
Ici, la contrainte est mathématique et plus précisément matricielle. Donc en mathématiques ou en informatique, une matrice se représente comme un tableau rectangulaire de données avec par exemple 5 chiffres en largeur et 10 chiffres en longueur. Donc sachant cela, voici comment le poème a été écrit. L'auteur a choisi 10 lettres de l'alphabet, ici E-S-A-R-T-U-L-I-N-O, et parmi les 16 lettres restantes, il en a choisi une autre. Il a placé 11 fois chacune de ces lettres dans une matrice 11 x 11, un carré, de sorte qu'une lettre ne puisse apparaître qu'une seule fois par ligne, un peu comme un sudoku. Lue de gauche à droite, puis de ligne en ligne de haut en bas, cette matrice de lettres doit donner lieu à une interprétation intelligible, un poème. Donc, le premier poème que je vous ai lu, si je le lis ligne par ligne, donc 11 lettres par 11 lettres, cela donnerait « Un soir le fat »,« Altournicef »,« Fleuraton si », »,« Nufolâtre si », etc. Le poète mathématicien doit donc d'abord dérouler la matrice en une longue phrase où toutes les lettres sont collées. Puis après, il individualise alors les mots et rajoute la ponctuation de manière à ce que cela fasse quelque chose de cohérent, de poétique. Donc le premier poème était fait avec les 11 lettres plus la lettre F, et je vous propose d'en écouter un autre avec les mêmes 11 lettres plus la lettre G. Songe, altruiste Guéluron, à l'urgent soir. Un Goliath s'engloutira, sénile, s'outrageant. Roi gluant ! Glorieuse nuit à l'ogre rigolant sur son auge lit.
L'heure est venue pour nous de tendre l'oreille vers les Crónicas Latinas de Pedro Lima, notre envoyé très spécial en direct de Buenos Aires.
Hola, buen día. Salut à toutes et à tous, chers auditeurs de l'Hexagone, auditeurs plongés, je le sais, en pleine effervescence électorale et politique. Bienvenue à Buenos Aires, capitale de la lointaine Argentine, pour une respiration, un voyage, un dépaysement que je vous propose, comme chaque mois. Vous l'avez compris, ce sont les Crónicas Latinas, dans lesquelles je vous délivre des informations à caractère scientifique et environnemental concernant l'Amérique latine. Le 18 avril dernier, l'entreprise de biotechnologie argentine Biocidus a annoncé avoir obtenu par clonage et pour la première fois au monde 4 vaches transgéniques porteuses du gène de l'insuline humaine. Dans quelques mois, ces animaux produiront dans leur lait la précieuse protéine qui permet de soigner certaines formes du diabète, une maladie, rappelons-le au passage, qui devrait toucher plus de 300 millions de personnes dans le monde d'ici 25 ans. L'entreprise Biocidus avait déjà mis au point, dès 2003, les premières vaches transgéniques porteuses du gène de l'hormone de croissance humaine, une protéine permettant, celle-là, de traiter le nanisme hypophysaire. Cette annonce survient quelques mois après l'autorisation de mise sur le marché, en juin 2006, par l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament, du premier médicament issu d'un animal génétiquement modifié. Il s'agit de l'ATRN, qui contient une protéine humaine anticoagulante présente dans du lait de chèvre. Autant d'éléments qui annoncent l'avènement de futurs troupeaux destinés à produire certains médicaments, les protéines recombinantes qui réagissent dans le corps de façon spécifique à chaque espèce. Actuellement produites par des bactéries et des levures à des prix très élevés, elles seront demain fabriquées par des animaux, vaches, chèvres ou lapins, génétiquement modifiés pour les sécréter dans leur lait afin d'y être ensuite recueillies. Avantage principal, un coût en baisse grâce à la taille imposante de ces bioréacteurs du futur. Ainsi, un troupeau de 25 vaches à insuline suffirait à couvrir les besoins d'un pays comme l'Argentine qui compte 1,5 million de diabétiques. Pourtant, tout n'est pas rose au pays des médicaments OGM. Certaines de ces protéines sont éliminées plus facilement par l'organisme et sont donc moins efficaces. De plus, le risque de réaction imprévisible du système immunitaire reste en partie inconnu. Autre crainte, la transmission d'agents infectieux. Sans parler des risques de rejet de la part des patients liés à la crainte des OGM en général. L'avenir nous dira donc si les vaches, lapines et autres chevrettes remplaceront un jour nos usines pharmaceutiques. Direction le Brésil à présent pour la suite de ces Crónicas Latinas avec des physiciens cariocas qui se lancent sur la piste de l'énergie noire. L'énergie noire, non pas la force qui émane des danseurs de samba ou des joueurs de foot de la Seleção, mais bien celle, très mystérieuse, qui émane du fin fond des galaxies et qui accélérerait l'expansion en cours de l'univers. Pour en percer le secret, 5 institutions brésiliennes se lancent dans l'ambitieux projet de cosmologie baptisé Dark Energy Survey. Un projet destiné, tenez-vous bien, à observer près de 300 millions de galaxies, dont certaines très éloignées et donc plus proches de l'origine de l'univers. Le DES Brasil, c'est son nom de code, sera ainsi chargé, plus spécifiquement, du développement d'un logiciel, Astrosoft, capable de gérer toutes les données produites par le projet. Vaste entreprise. Beaucoup plus terre à terre, si j'ose dire, et toujours au Brésil, cette idée originale pour recycler, devinez quoi, les peaux de banane. Je vous vois d'ici sourire dans le poste, ami de l'Hexagone. Eh bien, figurez-vous que les Brésiliens en consomment énormément des bananes, et que cela génère donc de très nombreux déchets. D'où l'intérêt des travaux de Milena Bognolo, scientifique à l'Institut de Recherche Énergétique et Nucléaire, qui vise à employer les peaux de banane pour diminuer la teneur en métaux lourds dans l'eau. Le produit est simple, une poudre obtenue à partir de la pelure de banane, après séchage puis passage au mixeur et au tamis. Versée dans de l'eau présentant une forte teneur en métaux lourds, cette poudre absorbe les contaminants et les fixe au fond, là où ils peuvent être ensuite retirés. Reste maintenant à mettre au point le procédé industriel permettant de généraliser cette belle idée de laboratoire. Direction à nouveau le Brésil ce mois-ci, puisque c'est à présent vers l'Amazonie que nous nous rendons, pour y parler de cet étonnant projet des ministères brésiliens de l'Environnement et des Communications, qui vise à équiper des populations indigènes de l'Amazone en accès Internet, afin de les impliquer dans la lutte contre la déforestation. 150 villages dits de vigilance environnementale seront ainsi sélectionnés dans un premier temps et équipés en connexion à haut débit. Objectif ? Permettre aux communautés, souvent isolées et démunies face aux agissements des exploitants illégaux de la forêt, de communiquer entre elles et également avec les autorités fédérales. Une façon d'impliquer ces communautés dont la connaissance intime de la nature en fait, de façon naturelle, les premiers défenseurs. Ces Crónicas Latinas touchent à leur fin. Merci de les suivre depuis l'Hexagone. Rendez-vous dès le mois prochain, toujours depuis Buenos Aires. D'ici là, portez-vous bien, votez bien et hasta luego.
Et voilà, les rivages radiophoniques de ce Terre d'étincelles s'éloignent peu à peu. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur les ondes de la grenouille où nous vous préparons une spéciale physique durant laquelle Magali nous contera ses pérégrinations au cœur de l'accélérateur de particules de Genève. Un grand merci à l'inimitable Bertrand Bruel, réalisateur de l'émission, ainsi qu'à toi Magali. Bon vote à tous et à bientôt.